Chapitre 7. Au cinéma. Donc ils sortirent tous les cinq, Mademoiselle Renée ayant à son bras le petit Malon, un triste, un inconsolable, Éric entre son cousin et Courtois. Ils se dirigèrent vers le bois de Vincennes, dont Éric ne fut enchanté qu'à moitié, car il le trouva humide, sombre, crotté, et les eaux du lac troubles et boueuses. « Il lui faut le bois de Boulogne à ce jeune aristocrate, » dit Courtois en riant. « Bien, nous le lui montrerons un de ces dimanches. » Pierre était préoccupé et causait peu. Une vague inquiétude causée par l'incident de la malle ouverte et fouillée se précisait dans son esprit. Que signifiait encore cette visite de Matignon à Courtois? Elle n'était certainement pas le résultat d'un hasard, encore moins d'une intention bienveillante. Matignon était venu exprès dans ce quartier si éloigné du sien, et s'était servi du nom de Courtois qu'il avait retenu pour essayer de capter quelques renseignements sur Pierre et son invention. Il était rentré bredouille de la chasse, mais une telle persistance avait de quoi étonner. Pierre se promit de retirer ses plans, ses dessins, qu'accompagnaient quelques notes manuscrites, du bureau trop exposé près de la fenêtre au rez-de-chaussée, et de prier M. Gavenard de lui garder ce précieux dépôt dans son coffre-fort. Courtois, par contre, causait tout le temps, tandis que, derrière eux, Mademoiselle Renée s'entretenait à demi-voix avec le petit Malon qui semblait lui faire des confidences. Subitement, Courtois s'arrêta. « Demi-tour, fit-il, j'ai quelque chose à proposer. Je vous offre une heure dans les enchantements du Palais d'Or. C'est un cinéma, c'est mon cinéma. »« Ah, finis ça, » dit Pierre ennuyé. Éric, à part soi, trouva que Courtois n'avait guère de tact dans ses plaisanteries. « Blague à part, » insista le soldat aveugle. « Non, c'est sérieux. Je suis actionnaire du Palais d'Or. Plus que ça, mieux que ça, je suis le chansonnier de l'endroit. » Je l'étais avant la guerre. Tu as bien entendu parler de XY, celui qui a fait la chanson Le chat du chat et bien d'autres idioties. Tout Paris m'a chanté et toute la France. Ce célèbre XY, Xanroff en a été jaloux, je ne te le cacherai pas, c'était moi. C'était le pauvre Courtois à qui la guerre a cassé ses carreaux. Pierre, qui avait passé sa vie en province, se demanda s'il devait avouer que le renom d'XY n'était jamais parvenu jusqu'à lui. Mais Courtois, estimant que ce silence indiquait une admiration stupéfaite, poursuivait déjà. « J'ai repris ma lyre. La lyre vaut mieux que les brosses. Le Palais d'Or n'est pas qu'un cinéma, c'est une scène de variété. Ils m'ont demandé des couplets. Je leur ai donné le rat de tranchée qui est au programme depuis une semaine. C'est ce rat que je vous offre. Je peux inviter 3 ou 4 amis tous les dimanches. Ça fait partie de mes honoraires. Maintenant, si ça ne vous dit rien... » Si ça ne leur avait rien dit, Courtois eût été évidemment très déçu. On devinait qu'il avait tenu cette surprise en poche dans une intention très aimable. Le petit Malon dit de sa pauvre voix morne « On sera assis sans payer » car il était déjà fatigué de la promenade. Pierre hésitait encore. « On sera grotesque, dit-il, 3 aveugles en 30 au cinéma. Je n'aime guère me donner en spectacle. « Puisque je te dis qu'il y a autant de musique que de cinéma, » insista Courtois, « je tenais à te soumettre mon rat, savoir ce que tu en penses. »« Allons-y pour le rat, » dit Pierre sans aucun enthousiasme. Courtois avait bien dirigé la promenade. Il n'était pas éloigné d'une des grilles du parc. Et le Palais d'Or, un pauvre cinéma de banlieue, dressait entre 2 champs de vin, sa façade peinturlurée et sa coupole d'Orient simili. Courtois tira de sa poche une carte d'admission pour 5 personnes. « XY et sa bande », prononça-t-il avec fierté. Le caissier fit un signe d'admission. Un garçon vaguement costumé en turc prit Courtois par le bras pour le guider dans les 3 passages vers le premier rang de fauteuil qui était presque vide, les spectateurs ne se souciant pas d'avoir, pour ainsi dire, le nez sur l'écran. Nos 5 amis s'assirent. Presque sous leurs coudes, un piano mécanique tenait lieu d'orchestre, chargé de moudre à la 4e vitesse des valses et des quadrilles au son desquels le drame se déroulait. Ça, c'est de la musique. J'aime ça, fit le petit Malon, dont la figure toute plissée s'épanouit. Il se mit aussitôt à taper de la semelle en mesure, tandis que Courtois cherchait à s'orienter dans le programme. « Qu'est-ce que tu vois sur l'écran ? » demanda-t-il à Rick, qui était assis entre lui et Pierre. « Il y a une lettre. Maudit, votre traîtrise est découverte. Dans 3 jours, la main de feu sera sur vous. Signé Victima. »« Ah oui, je sais. On est au milieu du grand drame américain. Tu vas voir une fuite à cheval à travers des forêts. Ensuite, il y aura les actualités semainières. Alors, ce sera le tour du rat. » En bonne justice, c'est moi qui aurais dû créer mon rat sur la scène. Mais le directeur de Saint-Amé me refuse l'autorisation de paraître en public tant que je suis en rééducation chez lui. Tu trouves que ça se tient, cette logique ? Fit-il plein d'amertume, se penchant vers Pierre. Pierre, sachant que les ténèbres régnaient autour de lui, se sentait moins mal à l'aise qu'il ne l'aurait cru. Un peu étourdi par la musique trop proche, il cherchait à renouer le fil de ses pensées qui, toujours, s'en mêlaient et se brisaient autour de Matignon. Rick, dans une bonne intention, essaya de lui décrire les voltiges des 2 cow-boys qui se poursuivaient sur l'écran. « Laisse donc, fit Pierre, je les sais par cœur, ces drames du Far West. C'est drôle qu'on ne fasse pas servir le cinéma à quelque chose de plus intéressant. » Quand le crépitement du film cessa, Pierre sut que la lumière était revenue dans la salle et il fut heureux de penser qu'étant au premier rang, avec toute la foule derrière eux, les 3 soldats si rapprochés de l'écran pouvaient être pris pour des myopes mais n'être pas reconnus pour des aveugles. Une grande tristesse, avec trop de souvenirs de ses premiers temps de cécité, l'avait envahi dans le parloir de l'école où il avait appris à être aveugle. Il pensait à Lucette si lointaine et il se disait « Ah, si je pouvais la voir, 1 minute seulement. Jamais je ne saurais comment est son sourire. » Le piano recommençait à moudre, faisait une farine mélangée de Madelon et de la Marseillaise. Les actualités passaient au grand galop. « Ça, c'est plus amusant, » commentait Rick. « Voilà M. Clémenceau qui serre la main à des poilus. Ce qu'il est naturel. À présent, on voit Reims, des ruines. » Et voilà un général qui décore une jeune fille. Des écoliers apportent des fleurs. Pierre, regarde ce camp de prisonniers Bauche. Je vais t'expliquer. Il mange la soupe. Bon, en voilà un qui flanque sa gamelle par terre. Il gesticule. Il vient tout près de nous. Quelle fichue tête! Le voici qui me regarde, mais en plein. Pierre, Pierre! S'exclama Rick d'une voix étouffée. « Eh bien quoi, un Boche te fait peur ?» demanda Pierre étonné. « Ce Boche, c'est Matignon !» déclara Rick, qui avait saisi son cousin par le bras. « C'est lui, il n'y a pas d'erreur. Il a cette même cicatrice depuis le nez jusqu'au bas du menton. Ça lui tire la lèvre d'en haut, on voit dedans les mêmes. » Tout à l'heure, sur l'écran, il disait quelque chose de vilain. Il avait exactement le même air qu'à la gare l'autre jour quand il ronchonnait contre l'administration. « Tu comprends, dit Pierre, comme on raisonne un bébé, que ça n'est pas possible. Matignon ne peut pas être à la fois un prisonnier allemand et contremaître à l'usine Gavenard. Remarque que ce tableau est une actualité. » « Une actualité comme celle-là peut être vieille de quelques mois, fit observer Rick. Ça ne porte pas de date. » « Tous les Allemands ont le même type, » dit Pierre, qui le croyait comme beaucoup d'autres soldats du front. « C'est toujours le même Fritz. »« Avec cette cicatrice ?»« Mais oui, il peut y avoir une cicatrice pareille. »« Ah, si tu pouvais te rendre compte, » soupira Rick, qui, tout à coup, se rappelant que Mademoiselle Renée avait vu Matignon dans le métro, l'appela doucement. « Mademoiselle Renée !» « Ce Boche, tout à l'heure, celui qui a jeté sa gamelle, il vous a rappelé quelqu'un ? Non ? Réfléchissez un peu. »« Mais non, je ne vois pas, » chuchota-t-elle. « Tu vois bien, » dit Pierre impatienté. « Tiens-toi tranquille à présent. Courtois t'expulsera si tu n'écoutes pas son rat avec dévotion. » Cette chanson du rat n'était ni plus ni moins bête que celle qu'on a coutume d'entendre dans ces lieux-là. Elle était même assez drôle, pleine de sous-entendus qui échappèrent heureusement à la naïveté de Rick, mais qui firent rire l'auditoire à gorge déployée. Elle fut d'ailleurs bien dite, bien détaillée, par un pitre qui s'était fait la tête de Gaspard. On applaudit, on reprit le refrain en chœur. Il fallait d'ailleurs une langue déliée pour prononcer en double croche « J'suis l'ra, 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 j'suis le beau gros gras, ri, gras. » Courtois dodelinait de la tête. « Sais-tu ce que sera à mis dans mon gousset ?» fit-il à Pierre. « 1 louis par soirée. On va me le demander dans d'autres musicoles. Je le ferai imprimer, on le vendra à la porte. Je pourrai aider à ma mère, la pauvre femme, et puis m'établir. » Rick ne saisit pas ce dernier mot parce que Courtois s'était un peu tourné, pour le dire, du côté de Mademoiselle Renée, qui n'eut pas l'air d'entendre. Pierre passait le doigt sur le cadran de sa montre braille. « Il serait temps de partir si nous voulons dîner. » « Nous ne pourrions pas attendre un peu, implora Rick, jusqu'à ce que le camp de prisonniers revienne. J'aimerais bien voir ce type encore une fois. » « Tu n'y penses pas, répondit Pierre. Le spectacle prend au moins 2 heures à tourner d'un bout à l'autre. Attends donc qu'il fasse noir de nouveau et nous filerons. Tâche qu'on ne nous remarque pas. Je te dis que nous sommes grotesques. Courtois pourrait faire une autre chanson sur « 3 rats aveugles au cinéma ». Comme Mademoiselle Renée était pressée également, on se sépara sans longueur. Courtois, gonflé de gloire, et Malon enchanté, partirent au bras de la jeune fille, fredonnant à sa droite et à sa gauche qu'ils étaient « L'ra, 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 le beau gros gras guérira ». Et le bon public les suivait avec des sourires apitoyés. Rick n'avait jamais vu son cousin dans un état de si parfait agacement, puis de chagrin, de susceptibilité, d'excitation et, pour finir, de si noir cafard. Il voulut rentrer à pied. Rick, qui ne possédait pas les jarrets d'un chasseur alpin, sentait ses jambes lui rentrer dans le corps et, d'ailleurs, une vraie fringale lui creusait l'estomac. Pierre, en bon français, sobre et petit mangeur, ne prenait jamais rien entre son déjeuner à midi et son dîner de 7 heures. Rick, au contraire, dévorait pour son goûter un énorme morceau de pain avec un fruit, des noix, du chocolat. Pierre n'y pensait pas. Ils allaient, à présent silencieux, dans la foule dense des quartiers populaires, souvent heurtés et bousculés, ou bien entendant sur leur passage les remarques ordinaires. « Ah, le pauvre garçon, si c'est pas malheureux, nous les arranger comme ça, c'est boche, on leur en fera aussi des aveugles !» Pierre, alors, marchait encore plus vite, comme pour fuir quelque chose d'empesté. « Les bonnes femmes croient donc que je suis sourd ?» murmurait-il entre ses dents. « Est-ce qu'on n'arrivera jamais ? Lis-moi le nom de la rue !» Enfin, on atteignit la porte de Clignancourt, et 5 minutes après, la rue Vanneau, le numéro 17, la grande chambre où le couvert était mis. Madame Amande apporta un excellent potage, un ragoût de veau garni de pommes de terre et de carottes. Rick mangea comme un naufragé, Pierre avec lenteur, avec une distraction qui le rendit maladroit, et il se fâcha même contre les petits os du ragoût. « Comme tu es de mauvaise humeur !» dit enfin Rick. Il s'en repentit aussitôt quand il vit son cousin se lever, s'en aller seul en tâtonnant dans le corridor jusqu'à la porte du jardin, et sortir, chercher le banc qu'il ne trouva pas, car il n'avait pas encore très bien repéré le jardin. Rick se dépêcha de mettre sur une assiette les poires du dessert avec un couteau, et il courut après Pierre qu'il prit par le bras, très contrit. « Je t'ai fâché, je regrette, » dit-il. « mais non, c'est moi qui suis un ours. » « Asseyons-nous sur le banc, » dit Rick. « J'ai apporté des poires. Je vais te peler la tienne. »« Tu me crois plus gourde que je ne suis ?» fit Pierre de nouveau agacé. « Est-ce que je ne saurais plus peler une poire ? Donne-la-moi et le couteau. Je te pèlerai aussi la tienne. Tu as eu assez de mal comme ça aujourd'hui. » Ce mot un peu enfantin attendrit notre Rick. « Pourtant, la journée commençait bien, » dit-il. « Je ne sais pas ce qui t'a pris. » « Tu ne sais pas. Ah non, tu ne peux pas comprendre. Non, malgré tout, tu ne comprends pas. Tu penses, Pierre est tout consolé d'être aveugle. Alors tu t'en consoles. Quoi ? C'est naturel. »